Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, comment vas-tu? Question traditionnelle.
Eh bien écoute, ça va, je découvre les caractéristiques du déconfinement partiel, donc c'est une expérience à vivre.
Tu redécouvres le monde, hein, c'est ça?
Un tout petit peu, je reste quand même globalement confiné pour éviter au maximum la propagation du virus, mais je me suis permis d'aller faire un petit footing avant-hier, tu vois, c'était la première fois que je faisais du sport en 2 mois, et je n'ai tenu que 22 minutes de footing, et j'ai des courbatures 2 jours après encore, tu vois. Mais je ne désespère pas de recommencer demain.
La machine était un peu rouillée. Oui, bah écoute, en ce qui me concerne, moi, j'expérimente les joies du masque que j'ai goûté pas plus tard qu'hier en allant chez le coiffeur. J'ai enfin perdu ma toison et j'en suis pas mécontent.
Bon, et alors le masque, bah, tu as la chance de ne pas avoir de lunettes.
Ouais, bah le masque, c'est quand même pas la joie, faut bien le reconnaître.
Lundi, j'ai été au lycée pour 2 réunions, 5 heures de réunion avec le masque, et moi avec mes lunettes, c'est vrai que il faut, mais bon, c'est compliqué.
On est bien d'accord. Mais néanmoins, c'est nécessaire et il faut pas baisser la garde.
Exactement.
Alors Renaud, la semaine dernière, on avait commencé à évoquer le problème de la dette de l'État français suite aux nombreuses mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la crise actuelle. On ne va pas revenir sur le détail de toutes ces mesures, simplement on sait que ça a des conséquences importantes sur le montant de cette dette qui maintenant avoisine les 115% de notre produit intérieur brut, ce qui est beaucoup, il faut le reconnaître. Et on avait conclu la semaine dernière en disant que probablement que cette situation pouvait engendrer à l'avenir de nouvelles politiques d'austérité, telles que celles qu'on a connues en 2008 suite à la crise des subprimes. Est-ce que tu me confirmes ça?
En tout cas, c'est l'une des possibilités qui existent si l'on reste dans la logique actuelle qui consiste à considérer qu'un endettement public élevé est néfaste à l'activité économique.
Alors donc, dans cette émission d'aujourd'hui, tu voulais nous proposer de revenir un tout petit peu donc sur ce qui s'était passé en 2008, parce que je crois savoir que c'est une erreur de fichier Excel qui, à l'époque, avait engendré un certain nombre de conclusions menant à la mise en place de ces politiques d'austérité.
Tout à fait, Eric. Alors, cette histoire, elle est assez incroyable, mais vraiment, enfin, tout comme dans un film il y a 3 ans, nous aurions vu un président de la République américaine annoncer à la suite d'une pandémie qu'il faudrait avaler des produits détergents pour se soigner. On aurait dit les scénaristes manquent cruellement d'imagination tellement c'est trop gros. Eh bien, l'histoire à toute proportion gardée que je vais te narrer à présent est à peu près du même acabit. Donc, c'est un cas d'école, en fait, je trouve, en sciences économiques, et c'est très intéressant de s'attarder dessus. Alors, plutôt que de faire un long monologue, je te propose qu'on rebondisse mutuellement sur l'histoire. Le point de départ est le suivant, puis je vais te laisser continuer, Eric, puisque je sais que tu la connais aussi bien que moi.
Et puis, j'ai un petit son introductif à faire écouter à nos auditeurs aussi, donc peut-être qu'on pourrait commencer par là, si ça t'en dit pas, Renaud. Parce que on peut peut-être citer nos sources. En l'occurrence, la personne dont tu parlais, c'est David Louapre. C'est l'auteur d'un blog scientifique à la base. Et pourquoi est-ce qu'il parle d'économie dans son blog? Ben, tout simplement parce que, comme on le disait à l'instant, l'erreur de calcul qui a été faite par les 2 chercheurs d'Harvard à l'origine de la mise en place des politiques d'austérité, eh bien cette erreur vient d'un fichier Excel et il explique dans son blog comment cette erreur s'est produite et à la suite de quel calcul et de quel raisonnement fallacieux on en est arrivé là. Alors je te propose d'écouter l'introduction de son blog, il y en a pour 1 minute et après on va nous développer ce qui s'y dit de façon plus détaillée.
Très bien.
L'histoire commence en 2010. À ce moment-là, on est en pleine crise économique et financière, celle qui a commencé quelques années plus tôt. Et les gouvernements de tous les pays se demandent logiquement comment sortir rapidement et efficacement de cette crise. C'est alors que 2 économistes, Kenneth Goroff et Carmen Reinhart, publient un article scientifique qui va devenir extrêmement influent. Ces deux-là ne sont pas n'importe qui, hein, ce sont 2 pointures de l'université de Harvard aux États-Unis. Et en plus de ça, ils publient leur article dans une revue spécialisée, l'American Economic Review, qui est une des revues les plus prisées des chercheurs en sciences économiques. On est donc a priori sur du lourd. L'article en question s'intitule « Growth in a time of debt », la croissance en temps de dette. Le but de l'article, c'est d'analyser le lien qui peut exister entre la croissance économique d'un pays et son niveau d'endettement, c'est-à-dire la dette publique accumulée par l'État.
Voilà, donc je rappelle, c'est David Louapre dans son blog Science Étonnante. Il a une chaîne YouTube, hein, donc nos auditeurs peuvent aller consulter cette chaîne YouTube parce qu'elle est très intéressante. Et évidemment, ça parle de tout autre chose que d'économie en temps normal, mais cette émission-là, plus spécifiquement, était consacrée à ces deux chercheurs de Harvard. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Renaud ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de cette recherche ou est-ce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ?
Un tout petit peu, parce que justement, c'est très intéressant. Pour réactualiser la chose, donc actuellement, nous allons aller vers un endettement public à hauteur de 115% du PIB, ce qui est absolument énormissime a priori, 2500 milliards d'euros. Donc, il faut quand même savoir que l'État français s'est endetté à hauteur de 2500 milliards d'euros. Donc, dans les 10, 15, 20 années à venir, ça dépend de la maturation de chaque emprunt, eh bien, il va falloir rembourser de 2500 milliards d'euros. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui peut peser, c'est-à-dire que c'est des ressources qu'il va falloir tirer sur l'activité économique, pas à des fins productives, mais simplement à des fins de remboursement. Et donc, effectivement, en 2008, comme déjà les endettements publics avaient explosé exactement suivant les mêmes mécanismes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a une récession économique, les recettes de l'État s'effondrent, puisque la principale recette, c'est la TVA. Et donc forcément, s'il y a moins d'activité économique, il y a moins de recettes qui rentrent dans les caisses de l'État. Et d'autre part, il y a tout un phénomène de soutien à la demande et à l'offre, à l'économie qui sont mises en place, exactement comme aujourd'hui. Et donc tout cela entraîne mécaniquement un accroissement des déficits et donc un accroissement de la dette. Et donc, en 2008-2009, à la suite de cet accroissement de la dette, finalement, la même question se pose. Est-ce que c'est grave? Ou est-ce que finalement, l'endettement est un phénomène relativement normal dans le monde capitaliste, surtout venant des États, et qu'il n'y a pas à s'en inquiéter outre mesure?
D'où la recherche des scientifiques de Harvard, en fait, qui sont des pontes de la science économique, si j'ai bien compris.
C'est ça, Reinhardt et Rogoff, je me souviens plus de leur prénom, mais bon, c'est pas très important. C'est vraiment, ça a longtemps été considéré comme deux nobelisables. Ils ont en particulier, si jamais des auditeurs seraient intéressés, écrit un gros livre qui a été traduit en français sous le titre « 7 fois c'est différent », 7 fois C-E-D-T-E et non pas le nombre 7, parce qu'ils ont voulu montrer qu'en fait, l'histoire du capitalisme est rythmée par des crises financières et qu'à chaque fois, on a été persuadé d'avoir compris le mécanisme qui a mené à cette crise et qu'on a mis en place les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et qu'en fait, à chaque fois, les crises reviennent et que les crises sont inhérentes à l'histoire du capitalisme. Et c'est vraiment un livre très intéressant. Et donc, oui, Reinhardt et Rogoff, c'était vraiment deux économistes, deux pointures. Et donc, en 2010, dans la revue American Economic Review, qui est l'équivalent de Nature ou Science voilà. Pour la...
Quelque chose de très sérieux dont on ne peut pas remettre la parole en question.
C'est ça, c'est la revue de référence. Et donc ils publient un article où ils ont essayé de déterminer s'il existait un lien entre le montant de la dette publique et la croissance économique sur les 100 dernières années dans les, pour dire les choses à l'essentiel, pour les 20 pays les plus riches. Donc en gros, regardons empiriquement ce qu'il s'est passé sur les 100 dernières années et essayons de voir si à chaque fois les pays les plus endettés ont connu par rapport aux autres pays moins endettés une croissance plus faible ou non.
Est-ce que
si systématiquement,
est-ce que ça a un sens de faire ce genre de corrélation entre deux phénomènes économiques qui a priori n'ont pas de relation l'un avec l'autre ou alors très indirecte?
Alors, justement, beaucoup d'économistes du courant, dans le langage courant qu'on va appeler du courant libéral, techniquement parlant, on les appelle les économistes néoclassiques, eux postulent qu'il existe un lien mécanique et direct entre la dette et la croissance. Puisque selon eux, la dette signifie que les agents économiques, connaissant cette dette, anticipent que les États vont devoir augmenter les impôts dans les années à venir pour rembourser la dette, et donc dès aujourd'hui décident de consommer moins et d'investir moins pour garder une somme nécessaire au paiement futur des impôts à venir. Donc cela a un impact récessif du fait que les agents économiques consomment moins.
Alors c'est un peu, si on refait un parallèle comme on l'a déjà fait dans le passé avec un ménage, un couple qui s'endette pour acheter un appartement par exemple ou pour acheter une maison, se dit bon, on a des traites pendant 15 ans, on va maintenant consommer un peu moins et manger des patates.
Voilà, l'équivalent serait ça. Voilà. Et donc les agents économiques étant rationnels se disent, je sais que l'État est endetté, je sais que c'est pas une bonne nouvelle, donc il vaut mieux moins consommer et moins investir, et donc cela aura un effet récessif. Donc, il, théoriquement parlant, il peut y avoir un lien entre les deux, entre la dette et la croissance. Ce lien n'est pas forcément avéré, en l'occurrence, mais théoriquement parlant, ce n'est pas impossible.
Et puis, c'est très conjoncturel, surtout. On ne peut pas systématiser les conséquences d'un endettement très élevé selon qu'on est dans un pays africain ou aux États-Unis ou en France à telle ou telle époque.
Alors c'est bien pour ça qu'en fait, ils font leur étude sur la vingtaine de pays le plus riche du monde sur les 100 dernières années.
D'accord.
Pour justement essayer de voir si dans les pays riches, un endettement public important est néfaste à la croissance ou pas. Parce que comme tu le dis très bien, ce qui est valable dans une situation donnée n'est peut-être pas du tout valable dans une autre situation. C'est la grandeur et la désespérance de la science économique qui est qu'il est extrêmement difficile de mettre en lumière des lois universelles parce que justement, on s'aperçoit que les mécanismes économiques sont extrêmement contextualisés à des systèmes économiques et même au-delà des systèmes culturels, ce qui peut être valable dans une culture n'est pas forcément valable dans une autre. Le toyotisme, par exemple, a été un immense succès au Japon. On a bien vu qu'on a essayé d'appliquer le toyotisme dans des pays comme la France. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre façon de voir les choses.
En d'autres termes, il n'existe pas de règle d'or en économie, quoi.
Alors, il y a plein de tentatives de mise en place de règles d'or en économie, si tu connaissais un peu la théorie économique, mais les faits sont têtus et généralement on s'aperçoit que toute règle universelle, par principe, a plein d'exceptions. Donc, perd un peu de son universalité, voilà, quand on regarde dans le détail. Mais bref, revenons à notre point de départ. Donc, ces deux chercheurs veulent savoir si oui ou non, dans les pays riches, depuis 100 ans, l'endettement public est néfaste. Et donc, ils montent une grosse base de données, avec donc des données sur les 100 dernières années, et leur résultat est sans appel. Tant que l'on n'atteint pas 80% de dette publique rapportée au PIB, l'endettement n'est pas grave, et un pays qui est endetté à hauteur de 50%, 60%, 70%, c'est pas grave du tout. Mais dès qu'on passe la barre fatidique des 80%, alors là, l'endettement est tellement important, il pèse un poids si fort que, au final, la croissance va être moins forte. Et donc, il faut à tout prix lutter contre l'endettement public dès qu'on dépasse la barre des 80%.
Dans cette étude, ces deux chercheurs démontraient que beaucoup d'indicateurs étaient en chute libre à partir du moment où on franchissait, alors je ne sais plus si c'est 80, 90, il me semble que c'est 90%. Donc les indicateurs se mettaient à vraiment baisser de façon très très significative, ce qui n'était pas le cas avant.
C'est ça. Voilà, en tout cas, l'impact sur l'activité économique, sur la croissance économique, est clairement extrêmement néfaste dès qu'on passait. Alors je crois que c'est 80. Bon, c'est peut-être 90, en tout cas, dans ces eaux-là. Voilà.
D'accord. Alors, est-ce que cette étude a été déterminante, Renaud, dans l'application ultérieure qui s'est produite de politiques d'austérité dans de nombreux États en Europe et même ailleurs ?
Voilà, c'est très difficile, il est très difficile de répondre à cette question, parce que bien évidemment, on n'est pas dans la tête des décideurs, et il est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'un décideur décide ce qu'il décide. Moi, je dirais plutôt que cette étude, elle a été dans le sens de ce qu'on en en psychologie sociale, on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que elle a été dans le sens de ce que pensaient déjà beaucoup de décideurs publics. Ils pensaient qu'il fallait lutter contre la dette, et cette étude tombait bien parce qu'elle justifiait ce qu'ils pensaient déjà. Je ne pense pas qu'une étude scientifique, c'est peut-être triste à dire, hein, en tout cas dans le domaine économique, soit suffisamment forte pour être capable de faire radicalement changer d'avis un décideur politique. Voilà. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, en tout cas. Donc, on ne peut pas dire que cette étude elle a été déterminante, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a bien justifié ce qui a été mis en place.
D'accord. Et pas de chance, on a découvert ultérieurement que dans cette étude, il y avait une erreur de fond qui reposait sur un simple calcul Excel, hein, semble-t-il, puisque les chercheurs avaient donné l'ensemble de leurs données chiffrées, ils avaient livré le fichier Excel en téléchargement à qui voulait bien le regarder, et un certain nombre de personnes ont noté qu'il y avait une erreur de calcul qui changeait tout finalement.
Ouais. Et là où on est dans un scénario de film où on aurait du mal à y croire, c'est que celui qui a trouvé l'erreur, c'est un étudiant en quatrième année de faculté aux États-Unis. Quoi. C'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, pendant un week-end, un de ses enseignants lui demande, essayez de trouver une publication scientifique des dernières années Prenez la base de données de départ et essayez de retrouver le calcul qui a été fait par les chercheurs. Et il cherche, il est en quatrième année de fac, hein, c'est tout. Hein. Il cherche et il trouve pas. Et quand il essaye d'appliquer la formule, il dit, mais ça donne pas ce résultat.
Il a failli avoir une mauvaise note quand même.
Donc alors, heureusement, il avait un enseignant intelligent, qui va voir son enseignant pour lui expliquer. L'enseignant, c'est bizarre, on va regarder ça ensemble. Et donc, ensemble, en fait, il publie un article pour dire, on est désolé, mais il nous semble que la conclusion des données de Reinhardt et Rogoff n'est absolument pas celle-là. Alors, pour aller à l'essentiel, ils s'aperçoivent de deux choses. Premièrement, il y a effectivement, dans le tableau Excel qu'ont utilisé les deux chercheurs, ça peut sembler incroyable, hein, mais bon, une erreur de recopie de formule. Et l'erreur de recopie de formule amène à une conclusion qui n'est pas celle que l'on aurait dû avoir si on n'avait pas mal recopié la formule.
C'est après, même, certains détracteurs ont dit... C'est une erreur volontaire. En fait, cette étude avait pour but d'orienter justement un discours politique préexistant qui visait justement l'application de politiques d'austérité. Est-ce que c'est crédible, ça ?
Alors, est-ce que l'erreur est volontaire ? Franchement, je n'ai pas d'éléments à apporter. Par contre, ce qui est troublant, c'est aussi la deuxième explication à leur erreur. Il n'y a pas que la recopie de la formule sur le fichier Excel. Il y a aussi une deuxième erreur qui est que, quand on regarde les données, il y a mystérieusement, ils ont choisi parmi toutes les données qu'ils avaient de ne pas en compter certaines. Et je te donne dans le mille, lesquelles ils ont décidé de laisser de côté, celles qui allaient dans le sens contraire à ce qu'ils souhaitaient dire. Voilà. Donc voilà. Et donc, juste pour terminer, si on applique la bonne formule de calcul, et si on prend en compte toutes les données, en fait, ce que l'on peut dire, c'est sur les 100 dernières années, il n'y a pas globalement de lien entre endettement public et croissance. Il n'y a que des cas particuliers. Des fois, l'endettement public est positif, des fois, il est négatif. Et s'il y a un lien, parce que il peut arriver que sur certaines parties géographiques, on trouve un lien, de toute façon, ce lien est extrêmement faible.
Voilà. D'accord, très bien. Malheureusement, Renaud, le temps nous manque pour continuer à disserter sur cette question. Tu voulais nous parler un peu des taux d'intérêt aussi de la dette. Est-ce qu'on reporte ça la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, bien évidemment, Eric, parce que là, une fois de plus, ce serait trop long pour t'expliquer ça en 1 minute 30.
Et comme tu le disais si bien la semaine dernière, le temps passe rapidement en bonne compagnie.
Exactement, Eric. Donc, il passe rapidement en ta compagnie et en compagnie de nos auditeurs.
Très bien, bah écoute Renaud, merci beaucoup et je n'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.